Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Politique avec Philippe Vincent Foisy et Antoine Robitaille. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bon, on commence, Antoine, avec ce vaccin pour là, le concept de Daniel Payet qui a épousé le gouvernement Legault.
Oui, ça soulève plusieurs questions, des questions juridiques. Évidemment, j'ai ça quand on dit question légale, c'est un anglicisme, legal question.
C'est noté.
Petite parenthèse de mon oncle 101, ça fait toujours du bien.
Oui.
j'ai eu Patrick Taillon dans sa chronique constitutionnelle qui abordait la question de la vaccination obligatoire et il se demandait pourquoi le Québec, le gouvernement Legault, tourne autour du pot. Essaie toujours par la bande, alors que c'est finalement Québec qui en fait moins qu'Ottawa, parce qu'Ottawa a imposé la vaccination obligatoire carrément à ses employés, aussi à ceux qui prennent les transports. C'est ça, là. Et là, il se posait la question, c'est bien intéressant, il disait, écoutez, il y a une loi, la loi sur la santé publique, qui concerne un des rares pouvoirs que le gouvernement du Québec n'a pas exploité depuis le début de cette crise, la vaccination obligatoire. Est-ce que il serait pas plus simple pour le gouvernement de carrément dire vaccination obligatoire et là de faire des exceptions après? Hein? Parce qu'il pourrait y avoir des exceptions. C'est évident qu'il y a des gens qui sont mal pris, qui sont exclus, c'est sûr qu'il y a des gens, c'est pas tous des complotistes, là, ceux qui sont pas vaccinés actuellement. Alors, il soulignait ce paradoxe-là, puis là, il disait, évidemment, il y a des obstacles, notamment l'obstacle des chartes. Et là, il dit, mais jusqu'à maintenant, il y a au moins 3 jugements, juste à la mi-novembre. Hein? Il y a la Cour supérieure qui a rejeté une demande en sursis provisoire sur le passeport vaccinal. Donc, après ça, la Cour fédérale qui a rejeté une demande d'injonction contre la vaccination obligatoire. Puis ensuite, lundi 15 novembre, vaccination obligatoire du personnel de la santé qui ont été confirmés positivement. Autrement dit, les tribunaux sont très ouverts actuellement. Ils savent qu'il y a une crise. Ils sont pas dans l'absolution des droits. Donc, c'est possible. Ça, c'est la question juridique. Question politique, ben là, on voit que à Ottawa, puis là, peut-être que, étant donné que ça concerne le Dominion, je vais passer la rondelle à Philippe Vincent, mais le tweet de Joël Lightbaum, qui est évidemment député libéral ici dans la région de Québec, et qui est, je dirais, le plus à l'offensive depuis la réélection contre le gouvernement Legault, ou pour envoyer toujours des petites mines au gouvernement Legault, qui dit, ben la COVID nous a fait perdre beaucoup, mais il ne faut pas lui donner le pouvoir de nous faire perdre nos principes. Là, il citait la politique canadienne de la santé, la loi canadienne sur la santé, qui finalement dit que tout le monde doit avoir accès, et il semblait dire de façon implicite que le gouvernement Legault était en rupture avec ça.
Bon, ouais, c'est Monsieur Lightbaum me disait que c'était sa position personnelle, que c'était pas une commande du gouvernement.
Okay.
Non, mais c'est parce que je me disais, il est plus secrétaire parlementaire. D'ailleurs, ça avait été une grosse surprise, ça, parce que c'était un excellent député, excellent porte-parole pour le gouvernement aussi. Mais donc Monsieur Lightbaum, en disant ça, on avait l'impression que Monsieur Trudeau marcherait sur des œufs, ce qu'il a un peu fait. Là. Il a été très prudent, le premier ministre, tantôt, quand on lui a posé énormément de questions là-dessus. Parce que dans le Canada anglais, sincèrement, on ne parle presque uniquement de ça. Là. C'était pas juste des questions au Québec, c'était des questions qui venaient vraiment de partout là-dessus. Puis Monsieur Trudeau a pas mal dit, au fond, qu'il espérait attendre des détails. Et ça a été la grande porte de sortie de ne pas avoir donné de détails hier sur l'application, comment on va le faire. On peut d'ailleurs écouter M. Trudeau là-dessus.
Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de faire payer aux non-vaccinés plus cher?
Les détails sont extrêmement importants sur comment ça va fonctionner comme incitatif ou comme encouragement. C'est pour ça que je peux pas me prononcer plus que ça, mais je peux dire que nous avons pris des mesures extrêmement fermes et même difficiles dans le domaine fédéral pour encourager, pour vraiment rendre la vie difficile pour ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner. C'est des gens de choses que nous devons faire pour assurer que les gens fassent le bon choix pour se faire vacciner.
Hey, c'est compliqué, hein? Amener les gens à la raison. Et M. Trudeau,
oui,
c'en est...
fédéral.
Mais
le monsieur, fédéral,
monsieur Trudeau s'en est prêt à Erin O'Toole aussi, là, qui essaie de sauver la chèvre et la soupe aux choux.
Ouais, qui essaie de ménager la soupe aux choux et la chèvre. Monsieur, ouais, parce que dans le fond, encore une fois, il a critiqué Erin O'Toole en disant, regardez, là, parce que je te disais hier que les conservateurs disaient que parler de vaccination obligatoire, c'était vraiment des déclarations incendiaires, puis que ça allait mettre le feu aux poudres, puis qu'on était en train de diviser la société. Là, M. Trudeau a dit, regardez, nous, on y croit à la vaccination comme la majorité de la population, et on encourage les gens à se faire vacciner. On a mis en place aussi des mesures d'obligation vaccinale. Faut quand même pas l'oublier, là, le fédéral a obligé ses fonctionnaires à se faire vacciner, qui... Selon Jean-Yves Duclos, ils sont vaccinés à 99 % a mis de l'obligation vaccinale pour prendre l'avion au Canada, prendre le train aussi. Donc, l'obligation vaccinale, elle existe au pays. Et là, M. O'Toole a encore une fois été critiqué parce que sa position là-dessus, elle est encore ambiguë, parce qu'il essaie de protéger certains de ses membres, parce qu'il y a des positions à l'intérieur de son caucus où il ne veut pas obliger les vaccinations de ses propres députés. Donc, il doit jongler avec tout ça. Mais tu vois, c'est pas que conservateur, cette position. Là, le maire de Toronto, tantôt, a été questionné à ce sujet-là, sur une taxe pour les gens non vaccinés, puis il a dit, regardez, je suis contre cette idée-là. Je suis aussi contre un couvre-feu parce que, selon lui, il y a un risque de dérive. Puis John Tory, on peut pas dire que c'est le plus grand des conservateurs, puis que c'est le plus grand ami de M. Ford en Ontario. Donc, à un moment donné aussi, dans le Canada anglais, ce débat-là va se faire.
Attendez, là, quand on parle de dérive, là, moi, j'entends ça sans arrêt. On parle de quoi, là, de virer le troisième
Reich?
Non,
mais est-ce qu'ils vont dire, est-ce que les fumeurs vont devoir payer pour leurs soins de santé? Puis je pense que le gros problème aussi, je pense, c'est qu'il y a une incompréhension là-dedans. Parce que le vaccin impôt de Daniel Paillet, l'ancien chef du Bloc québécois, c'était de faire payer ceux et celles qui vont à l'hôpital et après ça, ils recevaient une facture. Alors que de c'est ce qu'on comprend, puis Antoine, tu peux me corriger, mais c'est que là, en ce moment, on ferait payer ceux qui ne sont pas vaccinés, peu importe, un peu comme les fumeurs. Tous les fumeurs doivent payer une taxe supplémentaire quand ils achètent un paquet de cigarettes et non pas, si t'es fumeur, tu payes davantage pour tes soins de santé. Et dans le scénario actuel, on respecterait le principe d'universalité parce que tout le monde au Canada, tout le monde au Québec, même avec cet impôt-là ou cette taxe spéciale-là ou cette amende pour les non-vaccinés, appelez-la comme vous voulez, aurait quand même accès aux soins de santé, ne verrait pas sa facture augmenter à la suite d'une hospitalisation.
Ouais. L'autre aspect politique, il est ici à Québec, le Parti libéral du Québec, j'ai discuté avec les gens du parti ce matin, puis on me disait, il y a un élément de diversion aussi dans ce que le gouvernement a fait. Puis là, on a une crainte. Oui, le pouvoir, les gens au pouvoir, la CAQ dit, on va reprendre les rencontres hebdomadaires avec les oppositions. Mais ça... C'est un couteau à double tranchant là, pour les oppositions, parce que oui, on peut donner des bonnes idées aussi. Et ensuite, on est solidarisé avec le pouvoir parce qu'on lui a parlé. C'est plus difficile de critiquer.
Qu'est-ce qui est plus important, là? Ouais. Compter des points politiques ou travailler pour le bien commun?
Ouais, c'est un bon mélange des deux. C'est comme une crème glacée napolitaine, la politique, là.
C'est
les deux en même temps, là. Et là, l'inquiétude qui commence à circuler dans les rangs des oppositions, c'est, coudonc, est-ce qu'il va ramener le Parlement le 1er février, avec les règles actuelles, de sanitaires? Est-ce que ça va être possible de ramener le Parlement ou est-ce qu'il va essayer de faire ça à distance? Et c'est une bonne question parce que quand Dominique Anglade, la semaine passée, a dit ben il faudrait qu'on ramène le Parlement tout de suite, justement pour discuter de règles comme le vaccin impôt, pourquoi pas?
Et
qu'est-ce qu'a été la réponse de l'entourage de François Legault? Il serait contre-intuitif, c'est le mot que j'utilise, contre-intuitif de ramener le Parlement alors qu'il y a une hausse des cas comme ça. Est-ce que ça veut dire que le 1er février, c'est compromis? C'est une bonne question.
Ouais.
Mais ce serait un problème. On a une démocratie, ça pourrait valoir la peine d'avoir des discussions démocratiques sur de grandes positions comme on a en ce moment. Okay. Hey, je dis ça en nouvelle de dernière heure.
Ouais.
Thomas Gerbet vient d'avoir un courriel de la santé publique et l'a publié. Du côté de Radio-Canada, on nous parle de l'avis de la santé publique sur les CPE et les classes. Et l'école, les recommandations, en fait, pour les enfants de moins de 12 ans, là, on nous dit que un enfant asymptomatique en contact devra s'isoler 5 jours, subir des autotests pour revenir, mais on ne parle plus de fermer des classes et terminer aussi les périodes d'isolement 10 jours dans les CPE et les services de garde. On pourrait aussi revenir en classe à moins de 5 jours avec 2 autotests négatifs à 24 ou 36 heures d'intervalle. Alors, ça va nous donner une idée de l'annonce de demain sur la rentrée scolaire.
Ça va être le fun à gérer, ça, pour les parents. Vraiment, une minute.
Hier de politique. Ouais. C'est le fun de parler politique. Il y a une élection partielle dans Marie-Victorin qui devrait être déclenchée, si, en tout cas, à moins que le gouvernement change d'idée. Puis, Québec solidaire, je vous en parlais, a choisi sa candidate. C'est Chafika Vaitiana Tassarma. Et, justement, son nom est difficile à prononcer. Il nous a envoyé comme un tutoriel pour prononcer son nom. On peut l'écouter, ça dure 20 secondes.
Bonjour, donc voici un court tutoriel pour savoir comment bien prononcer mon nom et mon nom de famille. Donc, mon prénom, c'est Chofika, ça fait Chofika. Puis, mon nom de famille, c'est Vaitiana Dasarma. Donc, Vaitiana Dasarma. Donc, Vaitiana Dasarma.
Vaitiana Dasarma.
Ça se fait bien, dans le fond.
Oui, ça se fait. Il faut séparer les syllabes.
Je ne sais pas si on a le temps, je l'ai joint. J'y ai posé une question.
Vas-y.
C'est qu'en passant du bloc à Québec solidaire, elle change de position sur la loi 21. Alors, on va écouter sa réponse.
Je suis contre la loi 21. Toutefois, je reconnais la légitimité de la discussion qui est malheureusement un débat actuellement sur la loi 21. Je pense qu'il faut qu'on écoute toutes les personnes qui se sentent concernées par ce débat. Toutefois, j'aimerais ajouter qu'en ce moment, le débat ne permet pas d'échanger, de comprendre, d'avoir une position d'empathie envers les personnes qui sont concernées par cette loi-là.
Alors, je lui posais la question, c'est-tu un changement de position? Elle dit non, parce que j'avais dit que j'étais pas d'accord avec la loi 21, bien que j'accepte sa légitimité. De toute façon, le bloc, c'était pas à lui à décider sur la loi 21. Voilà.
Très bien. M. Robitaille, M. Foisy, merci. À demain.
Merci, à demain.